Marché boursier américain, marché actions et marché obligataires. Le scénario de la stagflation peut-il encore gâcher la fête? Alors chers amis, bienvenue, c'est la nouvelle édition du Top Gun. Nous faisons suite aux annonces la semaine dernière de la Réserve fédérale des États-Unis avec le scénario du pire fondamental qui a été évité. Les annonces de la Fed la semaine dernière sont quasiment inespérées eu égard au rebond de l'inflation depuis le début de l'année. En rythme mensuel. Eu égard à certaines statistiques macroéconomiques qui sèment le doute. Et pourtant, la Fed a confirmé qu'il y aura non seulement un pivot cette année, qu'il y aura 3 baisses de taux cette année, c'est-à-dire qu'elle ne manifeste pas d'inquiétude quant à sa confiance à une retombée des taux d'inflation sous-jacents en direction des 2%. À côté de cela, elle ne croit pas non plus à la stagflation et encore moins au hard landing. Elle croit toujours au soft landing. Rappelez-vous, chers amis, j'ai fait une vidéo sur ce sujet il y a 2 semaines. Soft landing des inflations, le rêve va-t-il devenir réalité? Pourtant, les récentes statistiques commençaient à gâcher cette perspective, mais la Fed affiche sa confiance. A-t-elle affiché sa confiance pour éviter un choc sur le marché actions et sur le marché obligataire? C'est possible. Dans tous les cas, la Fed n'a pas non plus garanti qu'elle agirait ainsi. Elle reste data dependent. Alors, dans cette vidéo, on va faire plein de choses. Déjà, c'est un titre pour faire peur, c'est un titre pour faire des clics, mais quand même, ça va me permettre de reprendre un certain nombre de choses. Le S&P 500 a fait un nouveau record historique dans le sillage de la Fed. Les taux d'intérêt ont rejeté sous résistance, permettant un petit rebond du marché obligataire qui reste en tendance haussière depuis septembre-octobre 2023. Alors, maintenant, qu'en est-il? Cette fameuse inertie haussière, rappelez-vous mon expression favorite, une tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois, une tendance haussière se relance plusieurs fois, ainsi que se développe la succession de creux et de sommets ascendants, et tant qu'il n'y a pas de cassure de support, cela se développe. Cela a été vérifié jeudi dernier, avec un nouveau record historique du S&P 500, il y a eu aussi un nouveau record historique de l'or, le rebond des crypto-monnaies, mercredi soir. Bon, l'attrait pour le risque. C'est inespéré ce qu'a annoncé Jérôme Powell la semaine dernière. Il aurait pu très bien dire, bon, l'inflation ralentit moins que prévu, nous n'envisageons que 2 baisses de taux cette année. Et non, il a signé pour 3. En tout cas, pour 2024. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire une synthèse des éléments de la Fed. Ensuite, alors, la stagflation. La stagflation, c'est une activité économique à l'arrêt, et donc des perspectives de bénéfices à l'arrêt. Ça, c'est pas bon pour marché obligataire, marché action. Et c'est aussi une stagnation économique qui s'accompagne d'inflation. Et donc, ça ne profite non plus pas au marché obligataire, puisque les taux ne pourront pas baisser s'il y a stagflation. Ce serait le scénario cauchemardesque. Est-il crédible? Jérôme Powell nous dit non. Il dit non. Vous savez, en général, c'est le marché qui s'emballe. En général, c'est la haute finance qui s'emballe. En général, ce sont les traders institutionnels qui s'emballent, qui rêvent, qui vivent dans le scénario prospectif le plus optimiste. Et en général, encore une fois, la Fed douche les espoirs. La semaine dernière, ce fut le contraire. Qu'est-ce que c'est étonnant. Donc, la stagflation, la Fed n'y croit pas. Se trompe-t-elle? Je vais passer en revue avec vous les dernières mises à jour macroéconomiques américaines. Et cette semaine, ça tombe bien, nous avons vendredi la mise à jour de l'inflation PCE aux États-Unis, qui est l'indice des prix favori. Je vais reprendre avec vous tous les indicateurs d'inflation. J'en ai des nouveaux pour ceux qui sont lassés par mes exposés sur l'inflation. Restez, j'en ai des nouveaux indicateurs avancés. Et puis, bien sûr, point technique, S&P 500, taux d'intérêt du marché. Je parle aussi de l'action Nvidia. Je vous parlerai de la bourse de Taïwan. Vous savez que c'est à Taïwan que 90% des puces électroniques, informatiques et liées à l'intelligence artificielle sont créées, la société TSMC. Et puis, je parlerai de l'action Apple en attaque. Alors, chers amis, on attaque, c'est parti, mon kiki. On attaque, on passe en partage d'écran. Moi, je me réinstalle tranquillement et puis je vous laisse lire ce titre. J'aurais pu mettre un autre titre, hein, mais ça me permet de faire un point sur le marché d'action américain. Alors, vous reconnaissez, vous avez à gauche le plan, et puis, comme je viens de le dire, vous pouvez le dire tranquillement. Mais qu'avons-nous à droite? Est-ce que quelqu'un parmi vous reconnaît ce que nous avons ici à droite sur cette image? une épée suspendue au plafond par un crin de cheval, et en dessous, un personnage. Un personnage qui a le pouvoir, mais qui a peur que l'écran de cheval soit rompu par le poids de l'épée et que l'épée vienne lui transpercer le corps. Il s'agit de l'épée de Damoclès, tout à fait. Vous avez vu juste. L'épée de Damoclès. J'ai voulu ici faire l'allégorie, en tout cas, expliquer que pour le marché action et le marché obligataire, alors le marché action avec le S&P 500, qui la semaine dernière, après la Fed, a fait un nouveau record historique, j'y arrive pour la partie technique, je voulais rappeler qu'il y a un risque toujours présent, même si la Fed n'y croit pas, d'interrompre brutalement cette tendance haussière du marché action américain, cette inertie haussière du marché action américain, si le scénario de la stagflation, et donc cette épée, l'épée de Damoclès, représente le risque de stagflation, un scénario macroéconomique que le marché n'envisage pas. Alors, bonne nouvelle, la Fed confirme qu'il y aura bien un pivot cet été et trois baisses de taux d'ici décembre 2024. Je vous ai mis en haut à droite ce qu'on appelle les dot plots, c'est-à-dire vous avez un point jaune. Vous savez, la Réserve fédérale des États-Unis, elle est constituée Réserve fédérale. Dans Réserve fédérale, il y a fédérale. C'est la fédération des banques centrales régionales des États-Unis. Chacune d'entre elles étant dirigée par un monsieur ou une madame et un monsieur. Bon. Et donc, ces patrons régionaux ont un droit de vote au sein du comité de politique monétaire de la Fed, le FOMC. Et c'est suite à ce vote que la Fed prend une décision de politique monétaire. Et donc, les dot plots répartissent les avis de chacun sur les baisses de taux à venir. Et la majorité, donc, la majorité fait le choix de trois baisses de taux. Nous sommes à 5,50. Ça passera à 4,75. Ça, ce sont les dot plots. Suite, la semaine dernière, aux annonces de la Fed, eh bien, vous avez désormais une probabilité de 65% que la Fed pivote lors de sa décision de politique monétaire du 12 juin, alors qu'avant cela, c'était moins de 50%. En réalité, que s'est-il passé? La Réserve fédérale des États-Unis a donc mis à jour ses anticipations macroéconomiques, et là, observez bien ce tableau. Je vous avais expliqué la semaine dernière qu'il fallait surtout regardez la mise à jour de la ligne Federal Funds Rate. Eh bien, en décembre dernier, la Fed avait dit qu'il y aurait trois baisses de taux, passées de 5,5 à 4,75, et là, elle nous dit pareil. Et ça, c'était inespéré. D'autant plus qu'en plus, la Fed relève ses anticipations d'inflation. Elle pense que nous serons qu'à 2,6 en core inflation fin 2024. 2,6, c'est quoi? Je vous rappelle que l'inflation core PCE, actuellement est à 2,8. Donc, ça veut dire que la Fed pense qu'on va simplement passer de 2,8 à 2,6 d'ici décembre. C'est pas 2 encore. Et pourtant, malgré ça, elle dit 3 rate cuts. Ça veut dire qu'elle a confiance, pas loin d'avoir une vraie confiance dans la désinflation. Ça peut surprendre. Avec les difficultés autour du canal de Suez, du canal de Panama, l'explosion du fret maritime, un pétrole qui se maintient haut avec les OPEC production cuts, mais elle garde confiance. La Fed fait les tendances de Wall Street, vous l'avez constaté, et elle les a fait et elle les fera toujours. 2,8, c'est pas loin. Cette semaine, vous avez la mise à jour du PCE, vendredi. Actuellement, en fait, pour être précis, il est à 2,84, parce que là, c'est arrondi. Il est attendu à 2,78. Imaginez que si d'ici décembre, ça devait être sous 2,6, ce serait mieux que ce que pense la Fed. Donc, voilà. Donc, le marché se disait que si la Fed relevait son anticipation d'inflation comme elle l'a fait, elle baisserait ses anticipations de baisse de taux. Ben non, elle les a maintenues à 3. Et en plus, elle ne croit pas à la récession. Je termine par l'exposer. Pourquoi? Regardez, vous avez ici les anticipations de la Fed. En ce qui concerne le taux de chômage aux États-Unis, elle pense que le taux de chômage sera à 4% en fin d'année, alors que je vous rappelle que c'est quand même chaud, car dans le dernier rapport NFP, ce taux de chômage a progressé pour atteindre 3,9% de la population active, mais la Fed nous a dit la semaine dernière, je ne m'inquiète pas, tout ceci va retomber, et elle a même baissé son anticipation de 4,1 à 4. C'est-à-dire, pour résumer, soft landing, désinflation, baisse de taux, voilà le combo, le tiercé gagnant qui entretient la tendance, alors que pourtant, actuellement, les chiffres macro commencent à la contredire. Mais elle nous dit que non, n'en tenez pas compte, c'est provisoire. Qui a raison ? Donc, pour le coup, vous n'avez pas dit de bêtises en expliquant que ce qui compterait, c'était la mise à jour de cette ligne, Federal Funds Rate. Maintenant, place aux chiffres, puisque la Fed nous dit qu'elle est data dependent, et cette semaine, vendredi, vous avez donc la mise à jour du sacro-saint PCE Inflation et du Core PCE Inflation. This is the key, my dear fellows. Donc ça, ce sont les... Alors, tout ce que je viens de vous raconter, je l'ai mis à l'écrit, à gauche. Maintenant, chers amis, place aux chiffres. Effectivement, le risque de stagflation a-t-il gagné en probabilité? Alors, qui dit stagflation? Rappelons que les tendances de fond du marché action et du marché obligataire se construisent toujours sur un scénario macroéconomique structurel. C'est le scénario du soft landing qui a porté la tendance ces derniers mois. Alors, lorsqu'on parle de cadre macroéconomique prospectif, il y a soit le hard landing, c'est la dépression économique, on perd 50%. Il y a le no landing, c'est-à-dire que l'économie accélérerait malgré les taux d'intérêt, parce qu'elle aurait du ressort structurel. Prenez l'industrie de la tech et tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, ils n'ont rien à carrer des taux d'intérêt. Parce qu'il y a dans l'intelligence artificielle des perspectives de bénéfices intrinsèques qui ne dépendent pas des coûts de financement. Mais l'intelligence artificielle ne représente pas l'intégralité de l'économie. Ce n'est qu'une petite partie de l'économie. Même si actuellement, c'est là où se font la majorité des bénéfices. Et il y a donc le soft landing qui serait un ralentissement économique, mais qui serait suffisamment sous contrôle pour autoriser la poursuite de la croissance des bénéfices. Et il y a enfin la stagflation. Et ça, c'est pas bon. C'est une croissance économique faible, donc moins importante que le soft landing, avec en plus de l'inflation qui reste élevée. Dans ces conditions-là, et le marché action, et le marché obligataire se prendront une raclée. Là, actuellement, la Fed nous dit que ça n'aura pas lieu. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder les dernières datas macro et d'avoir bien en tête que les chiffres de l'inflation sont mis à jour chaque mois et qu'il faut continuer de regarder leurs composantes, l'immobilier, le logement, le prix de l'énergie, l'impact du fret maritime. Regardez la lecture mensuelle, annuelle, je vais vous faire un récap. Et puis, les indicateurs avancés d'inflation. Bon, on regarde tout ça, les amis, pour en faire un point. Donc, je vous ai fait un récap à droite, en haut à droite, des dernières lectures connues de l'inflation. Alors là, je vais prendre le temps, on va rentrer vraiment dans les détails. Vous avez donc le PCE qui est l'indice favori de la Fed, le CPI, le PPI. Le PPI, ce sont les prix sortis de l'usine et les prix de la production. La différence entre le PCE et le CPI, c'est que dans le CPI, vous avez 40% d'immobilier. C'est trop, c'est too much. Et c'est parce que c'est too much que la Fed préfère le PCE, qui a moins d'immobilier et plus de services. Et je vous rappelle que l'économie américaine est une économie de services à plus de 80%. La Fed regarde donc le PCE. Le CPI est actuellement encore très haut. Forcément, le CPI 3,2, 3,8, mais comme je vous ai expliqué, cela en fait est dû pour le CPI, cela est dû en fait à la, comment dire, à la composante de l'immobilier. Cette composante de l'immobilier dans le CPI qui est encore extrêmement haute, si vous regardez Shelter, qui est à 5,7, mais comme je vous l'ai expliqué, il y a environ deux semaines, eh bien, les données de l'immobilier reportées dans les indices d'inflation officiels en bleu et en jaune sont en retard sur la véritable inflation immobilière qui, elle, est remontée par les sites d'agences immobilières et ces sites nous disent qu'en fait, il n'y a plus, ou quasiment plus, en tout cas, que nous serions revenus au monde d'avant dans l'inflation immobilière. Donc le marché est capable de se dire en fait que cette courbe à 5,7, on sait qu'en fin d'année, elle est à 3,4. Donc, overall, pour le CPI, il n'y aurait pas de sujet, il n'y aurait pas de stress. D'ailleurs, si vous regardez le super core CPI, qu'est-ce que c'est que le super core CPI ou le CPI core? C'est le CPI dans lequel on a retiré la bouffe, l'alcool, le pétrole et l'immobilier, ce qui est le plus volatile. Et nous sommes quasiment... Regardez, le monde d'avant, c'était ça. Regardez le super core PCI. C'est ça que veut la Fed. Elle veut retrouver un trading range sous le seuil des 2%. Nous sommes là à 2,4. C'est pas loin, mais on n'y est pas encore. La Fed, donc, elle n'est pas stressée par un core CPI à 3,8 puisqu'elle regarde le core CPI. Maintenant, la Fed, c'est surtout parce qu'elle regarde le PCE. Alors, le PCE est encore à 2,8 en version sous-jacente, à 2,4 en version nominale. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle envisage à 2,6 d'ici la fin de l'année. Il faut maintenant qu'on regarde les indicateurs avancés. Donc, on va regarder ça pour l'inflation. Maintenant, n'oubliez pas, il y a l'autre thématique. Dans stagflation, il y a stagnation économique. Stagflation, le stag, c'est pour stagnation économique. Y a-t-il un risque de stagnation économique? Les institutionnels n'y croient pas, dans leur majorité. Maintenant, pour savoir s'il y a stagnation économique, il y a des centaines de baromètres. Moi, j'ai fait ma sélection depuis longtemps. Je propose les ventes au détail qui représentent la consommation des ménages, la consommation des ménages représentant 70% du PIB américain. Je vous propose la production industrielle. On est sur du tangible. Qu'est-ce qui est sorti de l'usine? Voilà, combien de voitures, combien d'acier? Bon, là, c'est pas du bullshit. Et côté bullshit, nous avons les indicateurs avancés, les Purchasing Manager Index, les Forward Looking Indicators, qui sont du vent dans le sens où ce sont des sondages. Mais en réalité, il y a une vraie corrélation avec les marchés actions. Et puis, ce sont quand même des agents économiques importants qui sont sondés. En tout cas, les PMI sont très respectés par le marché. Et donc, où en sont-ils? Où en sont-ils pour l'économie des États-Unis? Alors, du côté des PMI, vous avez le PMI des services. Pour l'instant, effectivement, c'est du soft landing, puisque la zone qui sépare expansion économique de contraction économique, c'est la zone des 50, et nous sommes encore au-dessus. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Il y aurait davantage un stress sur l'évolution des ventes au détail aux États-Unis. Donc là, clairement, il y a eu un décrochage depuis le début de l'année. Sauf que nous ne savons pas. Alors, a priori, ce décrochage serait lié en grande partie aux conditions hivernales qui ont pu bloquer sur la période. Et c'est dans certaines parties des États-Unis, les transports, et donc forcément la capacité d'activité économique à se dérouler normalement. À confirmer. Mais en tout cas, récemment, il y a eu un décrochage des ventes au détail aux États-Unis. Vous pouvez aussi regarder du côté de la production industrielle aux États-Unis, où c'est pas top en termes de taux de croissance annuel de la production industrielle. Le taux est à zéro. Ça, c'est plutôt du côté de la stagnation économique. Mais encore une fois, l'industrie ne représente que 19% du PIB des États-Unis. Donc le débat est encore ouvert, mais tant que l'économie des services ne décroche pas, et tant que le taux chômage ne s'envole pas aux États-Unis, il n'y a pas de stagnation économique, et cela va dans le sens du soft landing. Et le taux de chômage aux États-Unis, qui est récemment monté à 3,9% de la population active, la Fed nous dit qu'on n'ira pas plus haut. Espérons qu'elle ne se trompe pas. Elle a quand même dit la semaine dernière qu'on ne dépasserait pas 4%. Là, elle a une marge de manœuvre qui est devenue faible. Donc le prochain rapport NFP, qui sera publié le premier vendredi du mois d'avril, aura une importance forte. Maintenant, où en sommes-nous du côté des indicateurs avancés de l'inflation? Alors, on va regarder un certain nombre que j'ai ici remis à gauche sous surveillance. Y a-t-il des risques? Donc, cette inflation PCE, pas le CPI, là c'est le CPI. Maintenant, je vous montre celui qui est le plus important, c'est le PCE. C'est celui qui est le plus suivi par la Fed. Vous avez en bleu ici le core CPI qui est à 2,8. Et vous avez le PCE qui est à 2,4. Regardez où on était dans le monde d'avant. Le monde d'avant, c'est celui avant l'envolée inflationniste post-crise sanitaire. Dans le monde d'avant, regardez, le core CPI et le CPI oscillaient autour de 2. Donc là, nous sommes en direction de 2, mais nous ne sommes pas encore en train d'osciller autour de 2. Cela va-t-il être le cas? Si l'on en croit les indicateurs avancés, je commence par vous présenter de nouveaux indicateurs avancés. Je vous ai beaucoup parlé, vous savez, des indices PMI. Et dans les indices PMI, qui sont des indicateurs avancés respectés par le marché, vous avez plusieurs composantes. Et vous avez notamment la composante prix. Nous allons donc regarder la composante inflation du PMI des services de l'ISM et du PMI manufacturier de l'ISM pour les États-Unis. Ensuite, vous avez traditionnellement Inflation Forecasting de la Réserve fédérale de Cleveland et Trueflation. Donc, où en sommes-nous avec tout ça ? La composante inflation du PMI manufacturier US est revenue au monde d'avant. Pas de stress. Elle est revenue au monde d'avant. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Maintenant, la composante inflation du PMI des services aux États-Unis, elle est aussi Alors, il y a eu un rebond sur les dernières semaines qui inquiétait un peu, mais ça retombe et nous serions aussi revenus au monde d'avant. Ici, vous avez donc la poussée inflationniste liée au Covid. Donc, d'après les composantes inflation des indicateurs avancés, des forward-looking, il n'y aurait pas de stress. Maintenant, que nous dit l'algorithme de la réserve fédérale, qui est ici construit par l'antenne régionale de Cleveland? Eh bien, elle nous dit que le core PCE, je vous rappelle que le core PCE est actuellement précisément à 2,84, pour être précis, là c'est arrondi, est à 2,84. Eh bien, il devrait tomber à 2,78 pour les chiffres de février, publiés ce vendredi, et il devrait tomber à 2,67 pour le chiffre de mars, qui sera publié en avril. Donc, ça continue de décélérer, et c'est pour ça que la Fed semble avoir confiance que d'ici la fin de l'année, nous serons à 2,6. Et ce qu'elle nous dit, c'est que si on arrive à 2,6, ça peut justifier trois baisses de taux. Donc en gros, la Fed nous a dit qu'elle allait commencer à baisser ses taux avant que le PCE revienne à 2%. Donc, vraiment, désormais, puisque la Fed elle est data dependent, il faut continuer de scruter la mise à jour de l'indice des prix PCE et la mise à jour de tous ces indicateurs avancés d'inflation. Et donc là, c'est le temps fort fondamental de la semaine. Ce vendredi, vous avez la mise à jour du PCE. Il faudra regarder la version mensuelle et la version annuelle. Parce qu'en mensuel, récemment, ça avait accéléré. Le PCE mensuel avait accéléré, ce qui avait donc représenté un stress pour le marché. Donc là, je vous montre, c'était la même chose. Hein. Là, c'était le CPI mensuel. Mais le PCE mensuel avait aussi accéléré. Et désormais, on l'attend à le retrouver. Je crois que les anticipations, c'est que cela retombe à, voilà, que ça retombe à 0,3, 0,2. Donc voilà, ça, ce sera vraiment majeur pour la suite. Alors ensuite, vous avez Trueflation. Alors Trueflation qui est à 2,23. Donc nous serions selon Trueflation. Alors il y a un rebond ces dernières semaines. Un rebond qui est lié à quoi? Qui est lié au rebond de l'inflation alimentaire et de l'inflation et des boissons, mais qui est passé de 0,3 à 1,94. Ça reste encore dans les cordes, mais il va falloir surveiller ça. Maintenant, toutes les autres composantes, et en particulier les composantes liées aux services, poursuivent leur tendance baissière. Ça, c'est plutôt bon signe. Et puis, alors là, ça remonte la santé, mais nous ne sommes qu'à 1,66. Et bien sûr, l'inflation immobilière, elle est à 3,63. Mais les indicateurs avancés suggèrent qu'elle va continuer de baisser progressivement. Donc là, il faut quand même surveiller cette remontée de Trueflation. Il ne faudrait pas que cela vienne casser les plus hauts ici de février. Donc ça, c'est quand même à suivre. Donc vous voyez que il y a du côté de l'inflation, la messe n'est pas dite. Et puis vous avez aussi toutes les problématiques autour de la géopolitique, de ce qui se passe concrètement dans le trafic maritime. Vous avez quand même l'effondrement du trafic maritime par la mer Rouge et le canal de Suez. Vous avez l'explosion du coût du fret maritime. Ici, selon le prix du transport maritime entre Shanghai et Los Angeles, mais je peux aussi vous montrer le Baltic Dry Index qui est en rebond. Et à l'époque, l'envolée du Baltic Dry Index avait anticipé l'envolée des taux d'inflation en Occident. Et tout ceci est lié aux difficultés autour de la mer Rouge. Et donc, si vous voulez ce scénario de la stagflation et de l'épée de Damoclès qui pourrait tomber sur son beau vieux Damoclès, eh bien, c'est autour de l'évolution du coût du transport maritime, et n'oubliez pas aussi de surveiller le prix du pétrole qui remonte par palier léger du fait des réductions de production de l'OPEP, mais qui ne s'envole pas non plus et qui finalement devient overall un facteur neutre autour des 80 $. Ce qu'on aimerait bien sûr pour la désinflation en Occident, c'est de voir le pétrole retomber à 65 $. Là, ce serait un vrai facteur de désinflation. C'est pour cette raison que je continuerai de vous proposer le mercredi dans le Fast and Forex des points techniques sur le prix du pétrole. Alors, si on faisait maintenant analyse technique S&P 500, analyse technique et bien sûr les taux d'intérêt du marché, puisque là aussi c'est primordial. Donc, suite à la réserve fédérale des États-Unis la semaine dernière, le S&P 500 a fait donc un nouveau sommet. Nous avons toujours ce qui définit la tendance haussière, une succession de creux et de sommets ascendants. Et tant que, en données journalières, Même si c'est suracheté, cette succession de creux et de sommets ascendants n'est pas brisée, il n'y a pas de panique. Alors, il faut casser un support, il faudrait casser un support, et donc, viendra un moment où il y aura une cassure, viendra un moment où vous aurez donc une cassure de support, et là, le premier support sur le S&P 500 se trouve à 5570 points. Vous en avez un maintenant même désormais qui est un poil au-dessus et qui se trouve à 5250. Tant que vous avez cette hausse par palier, bah, par contre voilà, viendra un moment où ça va réintégrer. Moi, je vous ai proposé la semaine dernière un point de long terme sur le S&P 500 en expliquant, donc là vous êtes en bougie mensuelle, que à chaque fois, la fin des bull markets, c'est lorsqu'on avait des divergences haussières en zone de surachat. Là, on arrive à la zone de surachat. Alors, ce qui fut d'ailleurs à l'époque le point haut, mais là, ce fut le choc boursier de la crise sanitaire. Mais, overall, il n'y a pas encore de divergence haussière en données mensuelles. Par contre, vous regardez en données hebdomadaires, on est vraiment, là, le marché atteint vraiment des niveaux de surachat très importants, mais il n'y a pas encore de divergence. Donc, il faudra craindre une vraie correction du S&P 500 le jour où bien toutes les valeurs liées à l'intelligence artificielle, et je vais vous parler d'Nvidia et de Apple dans un instant, vient donc contrarier cette inertie haussière complètement étonnante. Et lorsque sur le plan technique, vous aurez des divergences sur les horizons de temps longs, à savoir ici en données hebdomadaires et en données mensuelles. Pour ce qui est du court terme, la rupture d'un des premiers supports en données journalières créerait au moins un retour à la moyenne mobile, ici, à 50 jours. Je vous avais expliqué que la semaine dernière, les meilleurs baromètres à suivre étaient les taux d'intérêt du marché, en particulier le 10 ans américain et le 2 ans américain. Suite à la Fed, eh bien, je pense que nous sommes toujours dans cette construction technique que moi je vous propose depuis le début de l'année, qui est une construction technique ici, après avoir fait 5 vagues de hausse d'une structure corrective en ABC, sauf que comme j'utilise et comme je combine l'analyse chartiste et l'Ishimoku, il n'y a pas de signal de vente tant que le prix ne bascule pas sous le nuage, et là, nous sommes toujours au-dessus, dans un range qui Juntenkan. Donc on s'est mis en neutralité, mais la Fed, la semaine dernière, donne toujours du corps à ce scénario, tant qu'on se maintient voilà, sous les 4,50. Mais il n'y a pas eu non plus de signal de cassure de support, donc il faut rester prudent sur ces taux du marché. Vous avez le 2 ans américain qui représente le mieux les anticipations de la Fed. Et là, c'est le même type d'approche où il est très important sur le 2 ans américain de mettre sous très haute surveillance la structure en Ishimoku où à l'époque, le point de départ de la baisse des taux, c'est lorsqu'on traversait le nuage et lorsqu'on en sortait par le bas. Là, nous sommes complètement à l'intérieur. Donc la Fed, la semaine dernière, a évité un emballement des taux d'intérêt. Elle les maintient dans cette phase neutre, dans cette phase expectative. Et donc, cela reste très important à suivre cette semaine, car les taux du marché seront en avance sur les anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors, je termine par aussi des baromètres avancés qui me semblent très importants à suivre. Nvidia, l'action Apple et la bourse de Taïwan. Alors, direz-vous, pourquoi la bourse de Taïwan? Parce que la bourse de Taïwan, vous n'êtes pas sans savoir que 90% des puces informatiques qui sont liées à l'intelligence artificielle sont produites par TSMC, qui est le leader Taïwan. Elles sont toutes produites à Taïwan. Regardez un peu. Voilà, ça c'est le baromètre ultime de l'intelligence artificielle. Et la bourse de Taïwan, pour l'instant, tant qu'elle ne donne pas, alors c'est complètement suracheté. C'est suracheté, d'ailleurs, en mensuel, il n'y a toujours pas de divergence, mais on entre en zone de surachat. Vous voyez, à l'époque, l'exemple d'une superbe divergence baissière. Et c'était la fin. Mais là, on entre en zone de surachat, mais il n'y a toujours pas de divergence. Et là, vous avez donc les pareils en données hebdomadaires, et c'est ce qu'il faut continuer de surveiller. Par contre, vraiment, il y a un surachat énorme que l'on mesure par rapport à l'écart au principal moyenne mobile, par rapport à l'écart entre la moyenne mobile à 50 jours et la moyenne mobile à 200 jours. Bon, c'est un des baromètres à suivre, car lorsque celui-là se retournera, ça veut dire que toute la thématique de l'intelligence artificielle rentrera dans une phase de prise de profit. Dans les baromètres, naturellement, à suivre, vous avez toujours l'action Nvidia. L'action Nvidia, c'est exactement le même topo. C'est suracheté partout, mais il n'y a pas de divergence. Moi, je pense que finira par avoir cette vague 4. qui pour l'instant n'a pas commencé. En données journalières, ça fait toujours un petit trading range. Regardez un peu, le surachat, on le mesure par l'écart aux moyennes mobiles et l'écart entre les moyennes mobiles. Alors, peut-être que le marché va se contenter d'un trading range avant de continuer sa tendance haussière. En tout cas, c'est à suivre de près. Et vous avez Apple qui rebondit sur un support, un beau support qui a été formé à 165. On pourrait avoir ici une structure 1 et une 2 ABC. Possible qu'Apple remonte chercher le haut du range, parce qu'Apple a annoncé vouloir intégrer sur ses téléphones sa nouvelle intelligence artificielle. Et oui, on retrouve encore cette thématique de l'intelligence artificielle. Donc, il y a un passage de témoin entre ces stars de la tech qui continue de porter le S&P 500. Donc, au final, chers amis, une tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. L'inertie haussière se développe toujours sur cette thématique de l'intelligence artificielle. Et en plus de ça, les annonces la semaine dernière de la Fed qui est confiante pour 3 baisses de taux avec la désinflation et le soft landing. Voilà. Voilà, chers amis, et ce qui pourrait inverser la vapeur, c'est la stagflation. C'est pourquoi il faut continuer de mettre sous surveillance les meilleurs baromètres macroéconomiques de l'économie américaine et la mise à jour de l'inflation, notamment le PCE, qui est mise à jour ce vendredi et que je vous débrieferai dès la prochaine édition du Top Gun. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre petit like d'avance et passez une bonne semaine. Salut.